pas de faux secret, tu sais. Honnêtement, sans prétention, on a un solide produit de qualité mondiale. Donc, malgré qu'on ait, on a 80% de notre clientèle au Québec, au Canada, on a un produit qui peut facilement rivaliser l'ensemble des joueurs mondiaux dans le space dans lequel on évolue. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si tu veux une entreprise qui a une forte croissance, t'as pas le choix d'avoir un produit qui répond au standard des utilisateurs.
Mon nom est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 125e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis matin. Également, l'épisode d'aujourd'hui est présenté et produit par G7 Media, une agence de publicité Facebook. En genre fièrement plus de 30 millions de dollars de publicité Facebook à l'année, G7 Media aide depuis 9 ans maintenant les entreprises à accélérer leur croissance via l'entremise de la publicité Facebook et Instagram. Si vous désirez être au courant des meilleures pratiques dans l'industrie en ce qui concerne la pub Facebook, je vous invite à écouter le podcast Social Selling qui est mis en ligne tous les mercredis matin. L'équipe de G7 Media vous livre chaque semaine des études de cas réelles qui vont pouvoir vous aider à améliorer les performances de vos campagnes. Bâtir une entreprise technologique, obtenir des centaines de milliers d'utilisateurs, atteindre près de 6 millions de revenus récurrents annuels et tout ça quasiment sans financement externe, est-ce possible? Eh bien, force est d'admettre que oui, car l'entreprise de Sherbrooke Agendrix peut se targuer de l'avoir fait tout en ayant maintenu une culture organisationnelle excessivement saine au cours des dernières années. En effet, l'entreprise de Mathieu Allaire, l'invité du jour sur le podcast, a pu atteindre des chiffres de croissance assez costauds et affiche, tenez-vous bien, aucun départ volontaire d'employés depuis sa fondation en 2015. Agendrix, une entreprise qui aide les PME et TPE dans leur gestion d'horaire, a su bien s'implanter dans sa catégorie et atteindre la 12e place en 2021 des entreprises en plus forte croissance au Québec. On essaye donc, dans le 125e épisode d'Hypercroissance, d'aller dénicher les secrets de l'équipe de Mathieu afin de bien comprendre comment toute cette évolution s'est mise en place. Sans plus attendre, ma discussion avec Mathieu Allaire. Mathieu Allaire, tu es le président et cofondateur de l'entreprise Agendrix, une organisation technologique qui vient en aide à des milliers d'entreprises à travers le monde avec leur gestion d'horaires d'employés. Fondée en 2015, ton entreprise possède, au moment où on se parle, 115 000 utilisateurs actifs, 10 000 entreprises enregistrées ainsi que près de 6 millions de revenus annuels récurrents. Mathieu Allaire, au nom de toute l'équipe de Hypercroissance, merci beaucoup d'être sur le podcast aujourd'hui.
C'est un plaisir, merci de me recevoir.
Mathieu, avant d'aborder l'histoire derrière Agendrix ainsi que vos différentes stratégies utilisées pour atteindre la croissance que vous avez eue, peux-tu nous expliquer brièvement aujourd'hui qu'est-ce que Agendrix?
Yes, on est une entreprise qui développe un logiciel SaaS de gestion d'employés. Donc, on vient surtout simplifier tout ce qui est planification des horaires de travail, suivi des feuilles de temps, puis la communication au sein de l'entreprise. Puis, on se spécialise surtout auprès de la PME puis des TPE, où ce que les horaires sont variables. Puis ça, dans une multitude d'industries, là, donc que ce soit commerce de détail, pharmacie, résidence pour aînés, restauration, événementiel. Puis c'est ça, on a des clients qui, ça peut être une microbrasserie de 3-4 employés, comme on a des plus grandes bannières là, comme Saint-Hubert, Avril Supermarché, Coop Sélection Retraite, etc. Là.
Donc, les entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui et qui recherchent peut-être un logiciel de gestion d'horaire, je pense que Agendrix peut être une bonne solution québécoise en plus, là.
Je pense que oui. Surtout si, tu sais, où ce qu'on brille, là, c'est quand que c'est pas des horaires de 8 à 5, tu sais, du lundi au vendredi, là. Quand il y a un haut degré de variabilité, quand il y a des enjeux de remplacement, je pense que notre logiciel est un des meilleurs, ouais.
Et Mathieu, on en parlait, toi et moi, avant l'enregistrement du podcast. Donc, bien entendu, Agendrix, c'est une entreprise qui est en croissance quand même assez forte. Toi et ton équipe d'actionnariat, vous n'êtes pas tellement vieux, mais je crois que même avec ça en tête, Agendrix, ça n'a pas été ta première entreprise, ça n'a pas été ta première fois que tu as testé l'entrepreneuriat. Peux-tu nous dire un petit peu quelles ont été tes premières expériences au niveau affaires et ultimement comment Agendrix s'est créé?
Ouais. Niveau affaires, ben, c'est d'un point de vue personnel, j'ai toujours eu ça en dedans de moi, là, à 12-13 ans. Je programmais des sites web chez mes parents. Donc, j'ai toujours un passionné de la programmation. Sinon, c'est, je te dirais plus officiellement, mon quatrième projet d'affaires.
Ouais.
Clairement, mon plus important, lui qui a connu un plus grand succès. Puis, je pense que la particularité de mon parcours, c'est que ces quatre projets-là, en fait, je les ai tous faits avec les, deux mêmes cofondateurs que j'ai encore aujourd'hui dans l'entreprise, soit Charles et Samuel. Donc, ça nous a vraiment, on a vraiment eu une grosse learning curve tous ensemble. Puis à chaque projet, on apprenait quelque chose de nouveau. Donc, le premier projet, autour de 2010, là, de mémoire, c'était un babillard d'emploi. Donc, on avait vu un site américain, on trouvait ça intéressant, qui faisait un babillard d'emploi pour la programmation. On s'est dit, on va faire pareil. Ça a vraiment pas marché. Deuxième projet, le Shell SaaS en gestion immobilière. Ça a plus marché. On a mis en application des apprentissages, mais pas assez pour en vivre, si on veut. Donc, après ça, on a pivoté ça là, pendant l'université en agence. Donc, on offrait nos services pour de la création d'applications web puis mobile. Puis ça, ça a bien fonctionné. Donc, on s'est ramassé à une équipe de 5-6 employés, un petit peu moins qu'1 million de chiffre d'affaires en 2 ans. Donc, ça avançait très bien. Sauf qu'au bout de 2 ans, on voyait que la vie d'agence, le revenu comme un petit peu plus en dents de scie. Des fois, ça va trop vite. Des fois, tu manques de main d'œuvre. C'était moins quelque chose qui nous intéressait. Donc, on a rencontré en fait un homme de la région, André, qui lui avait opéré des restaurants, des hôtels dans le passé, puis avait vécu la problématique de la gestion d'horaire avec des employés à horaire variable. Donc, on a dit, bon, on va s'associer, on va créer une nouvelle entité, on va fusionner, si on veut, notre agence avec toute la même équipe, qui est encore en poste aujourd'hui d'ailleurs, donc tous les mêmes employés qu'on avait dans l'agence en 2013-2014 environ, pour créer Agendrix tel qu'on le connaît aujourd'hui.
Wow. Puis, pour bien situer l'audience, aujourd'hui, c'est important de le comprendre. Donc, on le dit en introduction, bientôt 6 millions de dollars en revenus récurrents, des centaines de milliers d'utilisateurs actifs, une croissance qui est forte année après année. J'ai cru voir, là, en faisant mes recherches, je pense que c'est 642% de croissance que vous avez été capable d'avoir en 3 ans. Félicitations d'ailleurs. Mais tout ça sans capital externe, sans financement externe, et habituellement, bien, les entreprises technologiques doivent aller chercher du capital pour aller accélérer cette croissance-là. 2 questions que j'aurais pour toi aujourd'hui. Premièrement, pour quelles raisons vous avez pas pris cette approche-là? Et en sous-question, j'aimerais savoir un petit peu, est-ce que tu sens que des fois, ça vous ralentit de uniquement utiliser des fonds que vous réinvestissez dans l'entreprise?
Ouais, c'est des bonnes questions. Écoute, on n'a pas eu de ronde de financement pour du capital de croissance. On a eu une petite ronde de financement au début, un genre de seed, là, si on veut, où c'était beaucoup de l'argent de l'interne qu'on a mis, puis des organismes locaux, là, si on veut, vraiment pour nous, c'est pré-commercialisation, donc c'était pour réussir à passer au travers le développement pour se rendre à la commercialisation. Donc ça, c'est la ronde qu'on a faite dans les tout débuts. Puis après ça, non, on n'a pas levé de sous. Ta première question qui était, est-ce que ça nous nuit? Je te dirais pas vraiment, non. Depuis nos débuts, on a toujours été très disciplinés à dépenser ce qu'on avait comme argent. Puis on est beaucoup des cofondateurs, on a toujours eu pas mal ce mindset-là également dans nos vies personnelles. Il faut dire que ça nous fitait bien là comme mindset. Puis, tu sais, quand on a fondé Agendrix, on avait déjà des compétiteurs américains qui existaient, puis qui avaient déjà levé des dizaines de millions de US. Là, aujourd'hui, ils sont rendus à des centaines de millions de US. Donc, tu sais, c'était des chiffres fous. Là. Puis sans dire qu'au Canada, là, tout ce qui est angel investing, puis les fonds de capital de risque, c'est pas bon. Je veux pas dire ça, sont bons, c'est juste... Quand tu essaies de jouer la game de lever des fonds, les Américains, souvent, ils ont un edge, ils ont une plus grosse tolérance au risque, ils ont la devise, puis ils vont lever des sommes sur des multiples encore plus élevés. Donc, on savait que nous, essayer de se battre head-to-head dans cette même stratégie-là, ça pouvait pas fonctionner. Donc, de là, un choix qu'on a fait aussi très rapidement de pas aller aux États-Unis, chose que souvent les entrepreneurs sont tentés de faire très rapidement dans leur commercialisation d'entreprise. Ouais. Exact. Donc, nous, on a décidé de dire, OK, ben on va s'inspirer de ces grands joueurs-là, dans le sens qu'ils faisaient des bons logiciels de qualité. On avait une vision différente un petit peu, mais dans les débuts, c'était beaucoup de quand même regarder ce qu'eux faisaient, puis réussir, nous, à avoir notre saveur de différenciation. Donc, nous, on a rapidement vu une opportunité au Québec. Donc, faut dire que la gestion d'horaire, c'est un marché adressable qui est assez grand. Donc, juste au Québec, c'est un marché qui est suffisant pour faire une business de plusieurs dizaines de millions de dollars, là. Donc, on avait une opportunité avec les intégrations de paye qu'il y avait ici, où il n'y avait pas d'application de qualité, au même titre qu'il y avait aux États-Unis, où il n'y avait pas l'effet de la langue. Donc, c'était toutes des applications anglophones. On sait qu'au Québec, bon, c'est majoritairement francophone. Donc, offrir une application qui était multilingue avec les intégrations d'ici, avec tout le contexte légal du travail d'ici. Puis, on s'est dit, on va y aller comme ça. Puis c'est ça, ça nous a pas bloqué dans notre croissance. Je pense qu'il y a toujours... Je veux pas dire que c'est nourri un petit peu par les investisseurs, cette mentalité-là de comme si tu lèves pas, tu vas te faire manger la laine sur le dos. Personnellement, je pense que j'ai beaucoup plus peur à une business qui va s'effondrer parce qu'il y a un conflit entre actionnaires ou parce qu'elle a pas de product market fit bien avant qu'un compétiteur les tuyaux, les sortes d'affaires. Je pense que c'est beaucoup plus fréquent. Fait que non, ça nous a pas affecté.
Donc, tu l'as pas senti qu'un joueur qui a peut-être un petit peu plus de moyens que vous arrive et puisse prendre des parts de marché qui étaient déjà à vous?
Non, pas vraiment, honnêtement. Tu sais, je te dirais que je suis un peu la mentalité que en SaaS, surtout en B2B, qu'il y a toujours une façon de tirer son épingle du jeu, d'avoir son angle. Puis nous, on est dans une catégorie qu'il faut dire qui est assez mature aussi, tu sais, de tout ce qui est RH, qui est gestion d'horaire. On n'est pas le first mover, on n'est pas dans une catégorie qu'on est en train de définir ou de construire. C'est quelque chose d'assez mature, peut-être pas autant qu'un CRM, avec la catégorie des CRM par exemple, mais tu sais, c'est un besoin qui est tellement omniprésent que je pense que tu peux différencier en targetant une niche plus précise, sinon en visant comme un territoire géographique avec des intégrations spécifiques. Tu peux être très fort en PME, en TPE, comme on a décidé de faire, puis laisser de côté l'enterprise. Il y en a qui vont focusser enterprise. Donc, je pense beaucoup que tu peux, tu as toujours les moyens de comme te différencier de cette façon-là. Puis, ça revient tout le temps à c'est quoi ton ambition aussi en tant qu'entrepreneur. Puis, sans dire qu'on n'est pas des gens ambitieux chez Agendrix, mais on n'a pas la prétention de dire, nous, on va être les meilleurs à employee scheduling dans le monde. Puis on va amener ça sur la Nasdaq dans 2 ans. Tu sais. Puis il y a des entrepreneurs, c'est ça, c'est de facto leur mentalité. Puis c'est correct. Tu sais, je veux dire, sans dire qu'on n'est pas ambitieux, c'est pas la définition de gagner. Tu sais, pour nous, c'est quoi la définition de gagner? C'est pas celle-là qu'on s'est donnée. La première qu'on s'est donnée, c'était d'être le market leader au Québec. Puis ensuite de ça, par exemple, en France, c'est d'être le meilleur auprès de la TPE. Donc même pas de la PME, donc de la TPE. Je pense que c'est important d'avoir des stratégies pour gagner, mais c'est toi qui définis comment tu gagnes ultimement. Puis nous, on a fait ça comme ça en lien avec nos ambitions personnelles comme entrepreneurs.
Tu disais qu'on est toujours capable de trouver une manière de se distinguer, de se différencier en tant qu'entreprise. Définitivement, vous avez trouvé la vôtre parce que sans capital externe, vous avez fait partie je pense que vous êtes la 12e entreprise en plus forte croissance au Québec, 91e entreprise en plus forte croissance au Canada pour l'année 2021. Tout ça, on le répète une nouvelle fois, sans capital externe. Parle-nous un petit peu de ces stratégies de commercialisation-là. Comment vous avez été capable de vous distinguer? Parce que il doit y avoir une certaine sauce secrète à Agendrix, là.
Je suis pas tant de sauce secrète, mais si j'en avais une, de toute façon, je suis pas sûr que je la dévoilerais au grand jour. Mais écoute, tu sais, Agendrix, on l'a jamais frappé de coup de circuit. Tu sais, ça a toujours été, moi, je suis un joueur de baseball, ça a toujours été une game de simple. Tu sais, on a frappé des simples, on n'a pas arrêté. Tu sais, on est basé dans les cantons de l'Est, sans dire que le fait qu'on aille. Là, c'est sûr qu'avec la pandémie, tout est plus en télétravail, mais on a souvent été un peu coupé de tout ce qui est la scène startup montréalaise, aller à des événements, startup fest. Tu sais, nous, on faisait nos trucs, là, on programmait, on vendait, heads down, puis on avançait comme ça. On était comme tout le temps un train qui avançait, qui coupait un peu tout le noise autour là, à ce niveau-là. Du fait peut-être aussi qu'on n'était pas autant en recherche de lever des fonds, donc ça l'aidait un petit peu à ce côté-là, parler aux clients beaucoup. Donc, j'ai pas de source secrète. T'sais. Honnêtement, sans prétention, on a un solide produit de qualité mondiale. Malgré qu'on a 80% de notre clientèle au Québec, au Canada, on a un produit qui peut facilement rivaliser l'ensemble des joueurs mondiaux dans le space dans lequel on évolue. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si tu veux une entreprise qui a une forte croissance, t'as pas le choix d'avoir un produit qui répond au standard des utilisateurs. T'sais, les gens sont habitués d'utiliser Instagram, Snapchat, Facebook. C'est pas des apps médiocres. Là. Il faut vraiment que tu répondes à ces attentes-là. La barre est tellement élevée. Donc nous, c'est ça, on a fait des choix très rapidement, tu sais, de programmer nos applications mobiles nativement en Swift, en Kotlin, tu sais, pas essayer de prendre des systèmes. Dans le temps, il y avait des trucs comme PhoneGap qui te faisaient économiser le double du temps. Donc nous, on savait qu'on n'était pas capable d'aller chercher le standard de qualité qu'on visait avec des technologies comme ça. Aujourd'hui, ça a évolué là, depuis, mais bref, fait qu'on a fait rapidement ces choix-là. On a beaucoup aussi misé dans tout ce qui est product-led growth. Donc rapidement, on a créé l'entreprise pour que les gens puissent créer un essai gratuit, faire l'essai de la plateforme, donc notre produit devient un outil de vente. Donc ça, si c'était à refaire, puis si j'avais à suggérer à n'importe quel entrepreneur aujourd'hui partir un SaaS, je pense que c'est de cacher une inscription derrière un Call Us Now ou peu importe, c'est un petit peu dépassé. Même les plus grosses entreprises, enterprise, essaient maintenant de revenir un peu en arrière sur une stratégie de product-led aussi, sur certains modules de leur offre. Donc, je pense que c'est un must aujourd'hui de partir son entreprise comme ça. Mais en 2015, c'était un petit peu moins la norme, là, si on veut. C'était déjà connu, mais c'était moins la norme. Puis, moi, sinon, un autre truc qu'on a bien fait, je trouve, c'est qu'on a rapidement misé sur des stratégies long terme en termes de commercialisation. Donc, tout ce qui est SEO, création de contenu, des trucs que tu peux pas attendre d'avoir peux pas récolter les bénéfices très rapidement. Donc, tu sais, les bénéfices rapides, tu vas avoir ça avec les publicités Google AdWords, tu vas avoir ça avec des campagnes de cold call, avec des salons d'affaires. Mais je pense que c'est une approche qui est très, que tu dois faire en parallèle. Donc, des fois, les gens concentrent toute leur énergie sur une, puis oublient de comme cultiver à côté, puis de commencer à semer plutôt des graines au niveau des stratégies plus long terme. Puis si on le fait, puis aujourd'hui, la majorité de notre croissance vient de des stratégies organiques. Sans ça, sans avoir bâti cette crédibilité-là auprès de Google, auprès des engins de recherche très rapidement, ben on n'aurait pas autant un bon edge.
Le contenu, c'est imbattable. Si on est capable d'être patient sur le long terme, là, c'est difficilement une stratégie qui est plus forte que ça. Au-delà de votre croissance, Mathieu, j'ai quand même été capable de voir que dans les 12 derniers mois, il y a eu beaucoup d'activités qui s'est passées chez Agendrix. D'ailleurs, j'invite l'audience aujourd'hui à aller regarder vos différents articles de blog. C'est très bien entretenu. Il y a de l'information qui est mise à jour régulièrement. Vous faites également des revues de l'année, revue de l'année 2021, 2020, etc. Et dans un de ces articles-là, la revue de l'année 2021, j'ai vu qu'il y a eu un certain changement au niveau de l'actionnariat. C'est les jeunes, c'est comme ça que vous le décriviez, qui ont repris un petit peu le bateau. Peux-tu nous parler un petit peu de cette dynamique-là dans la dernière année? Comment s'est déroulé ce changement de gouvernance?
Ouais, dans le fond, on a procédé au rachat là, d'un actionnaire majoritaire, là, André, que j'ai parlé un petit peu plus tôt, l'homme d'affaires de la région qui avait de l'expérience en restauration puis en hôtellerie. Donc, André était plus âgé que nous, là, de là un petit peu le call de dire que les jeunes ont racheté André. Toutes les autres actionnaires d'Agendrix, on est tous début trentaine, donc il y avait quand même un bon gap d'âge. Puis André était tout simplement rendu là à l'âge de la retraite. Puis c'est ça, était rendu à l'étape de plus de penser à son prochain step. Nous, on était encore en étape de vouloir pousser la machine, développer de la croissance pour Agendrix. Donc, des fois, tu sais, quand il y a ce petit désalignement-là, ça peut mener à des visions différentes sur certaines stratégies. Puis, c'est ça, on a procédé à son rachat. On n'était pas, tu sais, nous, à l'interne, comme j'ai dit, début trentaine, on n'a pas un war chest qui est super élevé. Donc, c'est une transaction de plusieurs millions de dollars. Donc, il fallait se trouver des bons partenaires. Puis, ça, c'est tout le temps un enjeu qui est important. André a été super fair play là-dessus, patient, là, si on veut, pour trouver un bon fit. Donc, c'est ça, il fallait trouver les bons partenaires. On a trouvé, avec BDC Capital, Desjardins Capital, un bon arrangement pour pouvoir procéder au rachat. On a fait la moitié en dette, moitié en équité. Transaction d'un petit peu plus que 4 millions. Donc, tu sais, ultimement, c'est toujours des périodes très émotionnelles. Là, il y a beaucoup d'ego dans tout ça aussi. Donc, mais au final, tout s'est bien passé puis on est en bon terme.
Si vous écoutez le podcast Hypercroissance, j'assume que vous dirigez une entreprise qui désire obtenir une croissance accélérée. J'imagine également que beaucoup d'entre vous possédez une organisation qui vend en ligne et qui désire aller chercher plus de parts de marché. Eh bien, si c'est le cas, sachez que J7 Media veut vous aider. Et la première étape pour vous donner un coup de main avec votre croissance est de diagnostiquer votre situation actuelle. Donc, si vous possédez un commerce en ligne et que vous désirez l'amener à un niveau supérieur en 2022, rendez-vous au www.j7media.com/diagnostic. Donc, je le répète, www.j7media.com/diagnostic afin d'obtenir 100% gratuitement une analyse de vos performances numériques. L'équipe qui est derrière plus de 30 millions en investissements publicitaires Facebook à l'année veut vous aider à grandir et tout se commence par un diagnostic de vos efforts actuels. Donc, je le répète, j7media.com/diagnostic afin d'obtenir une analyse 100% gratuite. De retour à l'épisode en cours.
Puis, c'est ça qui est assez fascinant chez Agendrix. Il y a plusieurs actionnaires dans l'organisation. Comment ça se déroule, ces conseils peut-être d'administration-là, les différentes tâches entre les actionnaires? Est-ce que vous avez des rôles bien définis ou des fois vous marchez un peu sur les pieds?
Bon, conseil d'administration, là, on vient de finir de le mettre en place. Avant, okay. C'était l'équipe d'exécutifs qui signait les résolutions sur le coin d'une table. Là. On n'était pas si bien chaussé que ça d'un point de vue gouvernance là, auparavant. Donc ça s'est beaucoup amélioré, mais d'un point de vue actionnariat puis responsabilité, faut dire qu'on avait entamé une transition là vers 2018 où ce que j'avais repris la peau de la direction générale. Puis honnêtement, tu sais, quand on a procédé au rachat, il y a pas grand-chose qui a changé d'un point de vue responsabilité. C'est vrai qu'on est beaucoup chez Agendrex. C'est une force, c'est une faiblesse en même temps. C'est une force parce qu'on a tellement de résilience, puis de quelqu'un s'en va en vacances, quelqu'un, tu sais, c'est facile après ça d'avoir un partner qui va te backer, tu sais, dans le sens que quand j'ai pris mes congés de paternité, par exemple, ben la compagnie s'est pas effondrée ou j'étais pas stressé que mon collègue Sébastien ou Charles, tu sais, puisse pas ramasser certaines de mes responsabilités. Donc ça l'aide à garder un peu sa paix d'esprit en quelque sorte à ce niveau-là. Puis on est tellement compétents dans nos champs spécifiques. Donc, j'ai Seb qui est au revenu puis aux finances. J'ai Charles qui est CTO à la technologie. J'ai Adam qui est au développement des affaires vente. J'ai Sam qui est au marketing. Donc, on est tellement comme chacun habitué d'avoir nos responsabilités, notre reporting, que le plus gros enjeu reste de la communication. Puis, tu sais, ça, dans un couple, c'est puis des actionnaires, c'est ça, là, c'est un peu comme une relation de couple, là, donc c'est plus que t'es, plus que tu peux avoir des conflits ou des problèmes de communication. Donc c'est de mettre en place des bons one-on-one. T'sais, moi je fais beaucoup de one-on-one avec mes associés. Moi je suis un petit peu la personne qui réussit à être l'espèce de vase communiquant entre les différents départements. Donc je m'assure que des fois, bon, s'il y a quelque chose qui il y en a un qui sent peut-être des fois de la frustration ou il y a de l'incompréhension sur quelque chose d'autre, de mettre ces personnes-là ensemble, de parler, de désamorcer rapidement les situations. Parce que ça, on l'a trop vécu dans le passé, d'accumuler, puis à un moment donné, ben, ça se parle dans le dos, whatever, tu sais, la star. Dès qu'on sent qu'il y a un petit quelque chose, on l'adresse, puis ça va tellement bien. Là. Fait que non, c'est un gros mariage, mais ça se passe bien là, ultimement.
Intéressant tout ça. J'aimerais continuer à parler un petit peu de votre volet, des ressources, des gens qui travaillent à l'intérieur d'Agendrix, parce que je continue mes différentes lectures sur vos articles de blog, et clairement, le volet ressources humaines surtout, ça a l'air de vous tenir à cœur. C'est ce que vous vendez, c'est ce que vous faites pour vos clients, d'aider des gens dans leurs ressources humaines, mais je crois que vous le faites très bien d'ailleurs à l'interne aussi. Certains exemples que je vais sortir ici, vous avez dans la dernière année créé un certain comité à l'interne qui s'appelle CARE, dans lequel que vous faites plusieurs initiatives. Donc, certaines d'entre elles, vous avez nettoyé de fond en large les berges de la rivière Saint-François. Vous avez donné plus de 6 000 $ pour l'initiative Movember. Faites la distribution des paniers de l'espoir de la Fondation Roque-Gertin aux familles dans le besoin. Et vous avez également organisé à l'interne une campagne avec Centraide Estrie de 4 000 $. Plusieurs projets. À quel point que c'est important pour vous, la culture d'entreprise chez Agendrix?
Ouais, la culture, c'est prioritaire, là, on s'entend. Là. Je pense que aujourd'hui, une entreprise peut pas survivre si elle n'a pas moindrement une culture qui est saine. Donc, tu sais, le comité CARE, c'est une chose qui, parmi tant d'autres, là, qui contribue à cette création de culture-là. Puis, il faut dire que ça, c'est de pouvoir avoir les moyens de, tu sais, d'investir dans notre communauté comme ça. Ça n'a pas été toujours le cas, là, dans le sens que c'est assez récent. Là, à Gendrix, ça va faire plus de 7 ans, là. Donc dans les débuts, on pouvait, tu sais, même si on avait toute la volonté du monde de s'impliquer comme ça, on devait penser à notre survie en quelque sorte en premier.
Bien sûr.
Donc là aujourd'hui, on est vraiment choyé de pouvoir avoir les moyens de redonner à notre communauté. Ça a toujours été un souhait là, en tant qu'entrepreneur qu'on avait. Puis ouais, la culture, tu sais, c'est pas juste des perks. C'est souvent quand on va avoir des articles de journaux, là, ça va être à Gendrix se met la semaine régulière à 35 heures. À Gendrix, tu démarres à 4 semaines de vacances. C'est tout des trucs comme ça qui, je pense, qui donnent un contexte propice à avoir des employés motivés puis qui aiment leur travail, mais c'est surtout comment le day-to-day à l'interne se passe. C'est les petites choses, là. Tu sais, c'est pas d'être micromanager, c'est d'être capable de déléguer, c'est d'être capable d'avoir, de donner du temps à tes employés, d'être créatif. Donc, tu sais, c'est vraiment dans l'opérationnel, je pense. Puis c'est très, t'sais, la culture, c'est très top-down, puis c'est nourri bottom-up, tu sais, à l'interne. Les actionnaires, les directeurs, on est des gens qui n'ont pas eu à forcer à créer une belle culture. Je pense qu'on est du bon monde, tu sais, tout simplement. Puis, veut pas, ça donne naissance à des... On se dit, hey, ça serait cool de faire ça, ben faisons-le. Puis, une chose qui nous aide beaucoup, c'est le modèle SaaS, dans le sens que notre revenu est tellement facile à prévoir, il y a très peu de désabonnements. Donc, on est capable de se mettre des milestones, de dire, hey, quand on va être rendu à temps, ben ça serait le fun de monter d'1% notre contribution réelle. Ça, tu sais, c'est comme tout est une étape, c'est une roue qui tourne. Donc, versus des fois, quand que t'es dans un modèle où tu as moins d'argent récurrent, t'es tout le temps en mode, ben OK, je vais augmenter le fonds de roulement un peu, ou ben d'un coup, qu'il y a encore une fermeture d'entreprise avec la COVID, puis ça nous affecte. T'es tout le temps un petit peu plus parano. C'est sûr que ça nous affecte aussi, là, ces histoires de fermeture-là, mais je veux dire, ça nous affecte beaucoup moins que quand que t'as pas cet argent-là qui est récurrent. Fait que ça, c'est une, C'est un bel avantage au modèle SaaS pour réussir à bâtir une belle culture d'entreprise, à mon avis.
Ah, les revenus récurrents, que tu sois dans le volet technologique ou peu importe dans quelle entreprise que tu es, ça devient quasiment essentiel. Ça devient quasiment essentiel en 2022 maintenant, parce que refaire des ventes à chaque mois sans nécessairement penser que le mois prochain, tu as déjà des revenus qui vont venir, ça peut devenir très maladif tout ça. Ça peut créer des stress inutiles. Et il y a tellement de manières maintenant, bien entendu dans le volet technologique, c'est à la mode, mais dans plusieurs industries, de pouvoir créer ces revenus récurrents-là, c'est une chose que tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui doivent se rappeler. J'aimerais revenir d'ailleurs, par contre, au volet de ressources humaines. Ce que tu nous as mentionné, les points que j'ai mentionnés que vous avez fait dans la dernière année, c'est assez sensationnel tout ça. Et en termes de résultats, j'ai été capable de voir que depuis la fondation d'Agendrix, aucun départ volontaire. C'est assez exceptionnel tout ça, là. C'est très rare qu'on voit ça avec des entreprises.
Ouais, vraiment, surtout dans le contexte d'une entreprise technologique comme ça, où ce que bon, les développeurs, les gens s'y arrachent. Honnêtement, on est super choyés, on est super aussi chanceux. Donc, tu sais, on a contribué à cette chance-là, mais je veux dire, on a toujours un aspect chance dans tout. Un entrepreneur qui dirait qu'il n'y a pas de chance dans la vie, c'est un bon menteur. Donc, on est chanceux à ce niveau-là aussi qu'il n'y ait pas eu de déménagement. Peu importe. Mais tu sais, ça contribue aussi à ce succès-là. Tu sais, le fait qu'il y ait aussi peu de turnover d'un point de vue employé, tu sais, c'est long de former un nouvel employé, gérer un départ, faire de l'embauche. Donc, tu sais, nous, on a fait le choix, puis c'est très aligné aussi avec le fait de dépenser l'argent qu'on a, c'est d'embaucher, tu sais, quand ça devient une nécessité, pas d'embaucher de façon à comme, OK, on a les fonds parce qu'on vient de l'élever, puis il faut combler 8 postes instantanément. Fait que tout notre processus d'onboarding, tous nos processus internes à RH, on a eu le temps de les fine-tuner, on a eu le temps de les peaufiner, parce que on n'a jamais eu à embaucher comme en malade, où ce que t'es submergé puis tu te mets un petit peu à négliger certains aspects. Donc là, on a des formations internes, donc chaque département, chaque directeur a des formations que quand un nouvel employé, un nouveau programmeur, il va avoir une formation sur le marketing pour un peu briser les effets de silo, par exemple. Donc tu sais, ça c'est jamais des trucs qu'on aurait pu mettre en pratique si on était tout le temps en mode on éteint des feux parce que on n'a pas le temps de faire bien des choses parce qu'on a 12 embauches à combler en moins d'un mois là, t'sais.
La pression de l'investisseur, vous ne la vivez pas, on va dire ça comme ça, qu'on lève des millions de dollars et on veut créer des emplois des fois quand on n'en a même pas de besoin. Donc
ouais, ben tu sais, aujourd'hui on a BDC Desjardins sur notre table, donc tu sais, on a des rapports trimestriels, on les a sur notre site. On a une forme de pression de bien livrer la marchandise. Puis on se l'amène naturellement à cette pression-là. C'est le fun de pas avoir tout le temps à planifier une autre ronde de financement. Tu sais, souvent, les CEO que je connais, qui font ça, ils ont deux chapeaux. Ils ont opéré la business, puis à un moment donné, ils se mettent en mode que la casquette, OK, on lève des fonds. Puis là, c'est comme si l'équipe à l'interne l'oubliait pendant un certain temps, puis allait comme faire son roadshow pour lever des fonds. Puis moi, je suis content de pas avoir à faire ça. C'est d'un, je suis un CEO très, très product, très plus technique, plus à l'interne, au niveau roadmap, au niveau comme créer des produits. Donc, d'avoir eu à faire ça régulièrement sur une base régulière, j'aurais pas autant de fun, si on veut. C'est un choix de manière aussi qu'on fait, mais ouais.
Ouais, effectivement. Bon, tu l'as dit un petit peu plus tôt, 80% de votre clientèle présentement est au Québec. Vous avez une certaine part de marché que vous avez été capable d'aller chercher en France. J'ai été capable de lire également sur les différents articles sur votre site web que l'année 2022, je crois que ça va être une année sensiblement d'expansion. Peux-tu nous en dire un petit peu plus sur le futur de l'entreprise?
On veut sortir plus du Québec. Donc, on avait une stratégie de dire, OK, on veut être market leader ici au Québec. Je pense qu'on peut dire aujourd'hui qu'on l'est auprès de la PME, comme on souhaitait. Donc, maintenant, on a déjà une bonne traction en Europe. Toutes nos stratégies que j'ai parlé un petit peu plus tôt là, de création de contenu SEO, ben vu qu'on les a fait en français, évidemment, pour le Québec, ont été très payantes du côté européen, donc par la bande, si on veut, là, par effet de bord. Donc, ça nous amène une quantité importante de leads quand même, puis des belles opportunités. Donc, on veut poursuivre dans cette voie-là, puis on veut aussi devenir un petit peu plus horizontal au niveau des RH. Donc, on gère déjà bien tout ce qui est gestion d'orage, gestion de temps, communication, mais tout ce qui est accueil, intégration, rétention, satisfaction. On voit qu'il y a des belles opportunités là. Puis notre clientèle, veut pas, on s'en vient avec une masse critique aussi d'organisation. Ben ça donne des belles possibilités là, si on veut, de vendre des modules complémentaires. Puis souvent, les gens ont pas besoin d'un système complètement dédié, par exemple, pour gérer tout l'aspect satisfaction. Ils peuvent très bien se contenter d'un bon vieux 80-20. Puis on parle beaucoup avec notre clientèle, on la connaît bien. Donc, on a beaucoup de On a beaucoup d'ambition à ce niveau-là, niveau RH. On est des gens qui aiment beaucoup bâtir aussi. Donc, ça va être une année très, très excitante là, d'un point de vue produit là, pour 2022.
Fantastique. Puis je terminerai, Mathieu, sur des petites questions personnelles que j'aime poser à tous les gens qui viennent sur le podcast. Est-ce que tu lis un peu des livres d'affaires? Est-ce que tu es un amateur de lecture?
Je suis un amateur de lecture, d'affaires, oui, clairement pour apprendre. J'ai jamais lu pour vraiment me divertir, là, autre que les livres obligatoires à l'école. Donc, je suis tout le temps dans un objectif d'apprendre, mais je dois avouer que plus récemment, là, avec des enfants, c'est un petit peu plus dur de réussir à établir ma routine de lecture comme avant. Mais oui, je lis.
Et est-ce que tu es capable d'en sortir quelques-uns qui ont marqué ton imaginaire pour l'audience aujourd'hui?
Ouais, plus récemment, j'ai fini le livre de No Rules Rules, la culture d'entreprise à Netflix. J'ai aimé le format où ce que le CEO parle, puis il y a aussi les commentaires de celle qui a écrit le livre qui amène un regard critique. Là, j'aimais bien le format, ça se lisait bien. Sinon, un de mes livres préférés, c'est About Our Things de Ben Horowitz. J'ai bien aimé le format encore, très des belles leçons, mais beaucoup de storytelling aussi dans ce livre-là. Puis sinon, tous les livres de Basecamp, là, Basecamp, ça a toujours été, c'est un peu les fondateurs du mode bootstrap, là, en quelque sorte.
Ben
là,
oui,
donc,
ben oui.
sont peu nuancés là, sur à l'effet de lever des capitaux. Donc tu sais, c'est faut en prendre et en laisser. Là. Aujourd'hui, je suis un petit peu plus nuancé, là, mais dans les débuts, c'était une belle source d'inspiration. Puis tous leurs livres, là, que ce soit Rework, It Doesn't Have to Be Crazy at Work, je les ai tous lus, c'est tous des classiques. Puis encore une fois, ça se lit bien. J'aime les livres que tu sais, c'est des petits chapitres, puis c'est facile. T'sais, tu peux en lire 3-4 avant de te coucher. Des fois, c'est ça que je reproche à certains livres où ce que les auteurs font beaucoup, beaucoup de longues phrases, puis tu sais, tournent en rond beaucoup, beaucoup d'anecdotes. Donc, je suis plus un gars du tac au tac. Là. Fait que des fois, les articles de blog, des bons vidéos YouTube, là, je vais quasiment plus aimer ça parce que je suis capable d'aller directement à la source.
Le Rework, c'est un bon exemple. Hein? C'est un livre que tu es capable de lire en quelques heures. Très, pardonnez-moi l'anglicisme, là, mais straight to the point, avec un concept qui est assez fort. Si les gens en cherchent un bon aujourd'hui, je pense que Rework, c'est un livre qui est sensiblement connu, mais qui mériterait, je pense, d'être encore plus connu, qui a donné place à beaucoup, beaucoup de changements pour beaucoup d'entreprises. Donc, un excellent livre.
Une chose que j'ai appris aussi des livres, c'est que, puis dans les débuts, t'as pas besoin d'être d'accord sur tout. T'sais, des fois, tu peux être d'accord avec 80% de ce que l'auteur va dire, puis 20% t'es moins d'accord. Puis ça, ben, veut pas, ça l'aide des fois à juste se faire une tête puis dire ah ben ou d'arrêter un livre parce que tu sais finalement ça s'en va nulle part. Ça avant j'avais tout le temps le syndrome de dire il faut que je finisse ce que je lis. Là maintenant c'est après 3-4 chapitres là, ça s'en va dans le champ gauche, mais je coupe ça sec puis on passe à un autre livre. On a toujours plus de livres en backlog que de toute façon, fait que ouais, ça c'est ça m'aide.
On prend une bonne information par livre là qui peut nous aider pour notre entreprise, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Puis podcast, est-ce que tu en écoutes un peu?
Récemment, j'écoute un podcast qui s'appelle How to Win de Pete Lajust. Donc, c'est le fondateur de CXL. C'est un podcast c'est un podcast très orienté SaaS B2B. T'sais, il interviewe beaucoup des entrepreneurs qui ont du succès dans des catégories ou dans des industries très crowded. Donc, par exemple, il a interviewé le fondateur de ConvertKit, qui est comme un logiciel qui fait de l'envoi de courriel initialement, du moins. Qui rentrait beaucoup dans la catégorie de MailChimp. Là, on pourrait dire que MailChimp était le first mover, winner takes all de la catégorie. Puis ben aujourd'hui, ConvertKit est rendu à, je pense, à pas loin de 30 millions là, de ARR. Donc, c'est de voir des logiciels comme ça qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu dans des segments très crowded, très compétitifs. Puis il y a beaucoup de stratégies que ces gens-là ont déployées. C'est très value-add là, comme podcast. Fait que ça, j'aime beaucoup ça. Mais sinon, des fois, je vais plus prendre un individu comme, par exemple, le CEO de Shopify, puis me mettre à écouter plusieurs podcasts où il y a eu des apparitions. Donc, tu sais, des fois, je vais changer mon approche. Je vais prendre une business ou un individu qui m'intéresse, que je vais en apprendre plus sur lui, puis le suivre au travers des différentes émissions qu'il a fait.
C'est une bonne approche, ça. J'adore l'idée. Je terminerai. Routine, bon, tu l'as dit, t'as des enfants, donc à un certain point, ça peut chambouler un peu la routine de lecture ou la routine d'affaires, mais tout de même, ça ressemble à quoi la routine de Mathieu Allaire avant, pendant et après le travail?
Ouais, c'est ça. Tu l'as dit avec des enfants, là la routine, c'est pas de routine en ce moment, là, surtout pas en période de pandémie. C'est une des particularités, c'est que je suis pas capable vraiment d'être fonctionnel si je bouge pas un minimum. Donc, Je me suis équipé là chez nous pour me faire un gym à la maison. Donc souvent, je vais me faire soit un workout le matin. Des fois, si pour une raison, j'ai pas une bonne nuit de sommeil à cause, tiens, des enfants, ça va être en fin de journée. Donc à ce niveau-là, bouger sur une base régulière, c'est important. Sinon, tu sais, je te dirais dans ma routine, ce qui est le plus important, c'est d'arriver à dédier mon focus, mon énergie à la tâche que je souhaite accomplir dans le moment présent. T'sais. Soit le problème que je me retrouvais à avoir, c'était, OK, ben, je voulais donner le bain aux enfants, mais je me retrouvais à essayer de répondre à un courriel on the side, t'sais, pendant de donner le bain, puis j'étais comme, tu sais, aujourd'hui, j'essaie d'être focus sur, je fais une tâche, je fais des Legos avec mon gars, ben, je mets le cellulaire, ça charge, je le mets loin, puis je fais des Legos avec mon gars, puis quand je travaille. Fait que c'est ça qui était le plus dur pour moi d'être, surtout avec des enfants, de mettre dans ma routine, c'était de dédier mon énergie, mon temps sur les tâches que j'accomplis dans le moment, qui sont importantes. Donc, je te dirais, ouais, c'est ça. Puis le week-end, à cette heure, j'ai le privilège d'être pas mal juste le laptop fermé, avoir mon temps de famille parce que la semaine, tout s'enchaîne tellement vite que ça, je suis content de ne pas on est en affaires aussi pour éventuellement pouvoir se payer ces luxes-là, là, dans le sens que on a grindé notre part, mais à un moment donné, si tu sens pas qu'il y a une amélioration sur cet aspect-là, à moins que tu aimes vraiment ça, moi de mon côté, j'aime ça avoir du temps de famille aussi. Donc,
Bien
niveau
sûr.
routine, avoir mes week-ends avec mes enfants, là, c'est priceless, ouais.
Fantastique. Mathieu, ben merci énormément d'avoir pris le temps avec moi aujourd'hui. Je pense qu'on a eu un entretien assez fascinant. Comment que les gens qui nous écoutent aujourd'hui peuvent en apprendre plus sur Agendrix? Parce que j'ai l'impression que la clientèle, ou plutôt les auditeurs de Hypercroissance, peuvent devenir une certaine clientèle pour Agendrix.
Agendrix.com, c'est classique. On offre des démonstrations du produit gratuitement, là, donc vous pouvez faire l'essai. Comme j'ai dit tantôt, là, on est très product-led, donc vous pouvez l'essayer vous-même directement, mais des fois, les gens veulent poser des questions, donc un petit entretien de 10-15 minutes avec quelqu'un de notre département de réussite client pour réussir à dire si oui ou non. Tu sais, on est très no bullshit là à l'interne, donc si on n'est pas un bon fit pour l'entreprise, ben, on va vous le dire tout simplement. Donc, on peut s'inscrire ou juste booker un entretien là, avec quelqu'un à l'interne chez nous.
Fantastique. Mathieu Allaire, merci énormément d'avoir pris le temps aujourd'hui d'être sur le podcast Hypercroissance. Je pense que ça va être un épisode que j'ai très hâte de partager avec notre audience. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance. Pour tous les gens qui nous écoutent sur Hypercroissance, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à Agendrix afin de voir si le logiciel peut vous donner un coup de main. Toujours plaisant de voir que des produits québécois peuvent prendre autant de croissance et ce, sans quasiment aucun support financier. Également, continuez à m'ajouter sur LinkedIn. Comme je vous le dis à chaque semaine, j'adore discuter avec vous. Et plus souvent qu'autrement, vous me donnez de super idées d'invités pour le podcast. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.